Amis de Radio Silence, bonjour. Hier soir, c'était une soirée spéciale aux États-Unis, car le président Obama a délivré, comme on dit, son dernier speech sur l'état de l'Union, qui est un peu l'équivalent de notre discours de politique générale ici, qui trace les grandes lignes de l'année à venir. Pour ce dernier State of the Union, c'était un peu émouvant, mais peut-être pas tellement émouvant, de penser qu'au bout de 8 ans, ça va être la dernière fois que le président Obama va s'exprimer, ou plutôt va faire cet exercice-là. On a un pincement au cœur quand les dirigeants commencent à tirer leur révérence de la présidence. Bon, voilà, Obama a donc fait son discours, qui était très attendu, comme toujours. Et il a tenu d'abord à dire, parce que ça c'est important, que peut-être qu'il va parler moins longtemps, mais ça tout le monde a rigolé, parce que les politiques ont ce défaut de toujours beaucoup parler. Et il a, c'est une coutume aussi américaine, il a fait allusion au fait que le public devait être impatient de retourner dans l'Iowa, parce que l'Iowa va ouvrir le bal des primaires démocrates, enfin des élections. On saura de Clinton ou de Bernie Sanders qui sait qui est devant, enfin qui gagne, je ne sais pas. Bon, c'est le coup d'envoi et donc c'est toujours très important de se mesurer, de se peser, de savoir combien on vaut. Alors le clin d'œil était assez intéressant, c'était ce qu'on appelle le moment détente avant le speech. Du coup, le speech, ça donne quoi? C'est un classique. On rappelle déjà, parce que quand le président arrive, pour ceux qui ont vu, qui savent déjà, mais on visualise un peu la scène, il arrive, il dit bonjour à ceux qui sont derrière lui, c'est-à-dire le vice-président Joe Biden et le speaker de la House, donc le président, l'équivalent de M. Bartolone ici, et qui d'ailleurs a changé en cours de route récemment, c'est M. Paul Ryan qui remplace l'ancien président John Boehner, parti sur un différent à propos du budget, car les républicains ne veulent pas financer tout ce qui est de l'ordre de la, ils appellent ça le planning familial, mais ça cache quelque chose de plus discutable, en fait, qui les oppose, de plus divisif, qui concerne l'avortement. Donc les républicains ne veulent pas financer ce planning familial parce qu'ils cacheraient derrière un projet la question de l'avortement, qui elle-même cache derrière la question du trafic d'organes, qui elle-même cache derrière beaucoup d'autres choses non déclarées, notamment peut-être probablement des trafics de fœtus et autres choses liées aux ruptures, enfin aux interruptions de grossesse. Bon, c'est des mots cliniques. Bon, qu'ils disent bien ce qu'ils veulent dire. Interruption de grossesse, c'est pas toujours voulu. Parfois, c'est subi. Parfois, il y a beaucoup de raisons derrière et qui ont trait à la question du droit des femmes. Les démocrates parlent plutôt du droit des femmes et les républicains, eux, ils parlent plutôt de tout ce qui est derrière, qui n'est pas dit, c'est-à-dire avortement, c'est-à-dire un peu laisser aller comme ça sur la gestion de certaines choses, bon, qui sont très 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 délicates à manier. Il était donc intéressant de voir que John Boehner en a eu marre de s'opposer avec Barack Obama sur cette question-là, parce que l'année dernière, à plusieurs fois, ils ont fermé le gouvernement quand ils étaient bloqués, et il a laissé tomber, il a passé la main, et Paul Ryan arrive, il a été élu haut la main, c'était surprenant, mais en même temps, quand on connaît son parcours, pourquoi pas? Intéressant, surprenant, mais intéressant. C'est un renouvellement de génération aussi qui apporte un plus à cette révolution républicaine, on va dire comme cela. Du coup, bon, le président, il commence par faire quoi? Il remercie le speaker pour les républicains d'avoir évité un blocage du budget cette année, de l'avoir fait passer, notamment dans ce budget. On n'a pas encore bien défini comment financer cette question du plan Parenthood, du planning familial, mais bon, on a fait l'essentiel, on a passé l'essentiel, et puis au fur et à mesure, on fera les ajustements nécessaires. notamment, ce qui est intéressant, c'est de voir que pendant longtemps, les républicains s'opposaient à la baisse d'imposition pour tous, si on peut dire ainsi, pour la classe moyenne. Et là, ils ont laissé tomber. C'est peut-être l'année électorale qui le fait. Autant les républicains sont pour baisser les impôts pour les riches, autant ils ne sont pas pour baisser les impôts pour les autres classes. Alors, c'est assez impressionnant. Donc, comme ce sont des sujets qui peuvent faire perdre des élections, qu'est-ce qu'on fait? On a laissé passer. C'est de bonne guerre, mais c'est une bonne nouvelle pour les familles, comme on va dire, pour les travailleurs. On va dire comme ça, les classes moyennes, c'est le terme approprié. Qu'est-ce qu'Obama pouvait bien dire? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'abord, il a souhaité que, en parlant toujours au président, au speaker, il a souhaité qu'il puisse travailler dans ce même état d'esprit sur la réforme de la justice. Il a souhaité qu'on puisse travailler aussi sur le combat sur les prescriptions abusives de drogue. Voilà, cet esprit-là, il appelle ça une approche constructive. Il voulait que cet esprit-là continue parce que c'est ce qu'il aurait voulu. Et c'est le regret de sa présidence. S'il avait été un Lincoln ou s'il avait été un Roosevelt, il croit qu'il aurait pu mieux faire pour apaiser les tensions entre les deux parties, faire en sorte qu'il y ait moins de divisions, faire en sorte qu'il y ait plus de coopération entre les deux parties. Bon, on ne peut pas tout faire, hein. Alors il se félicite quand même. Bon, maintenant, il dit qu'il va parler. Il a parlé, voilà. Pas seulement pour l'année prochaine, mais pour les 5 prochaines années, voire les 10, et pourquoi pas au-delà. Donc, il s'est posé en visionnaire. Il s'est posé en quelqu'un qui a un peu lancé des choses et qu'il appartenait comme ça à son successeur. Donc déjà, c'était une façon pour lui d'assurer la transition de pouvoir. Il appartenait à son successeur d'aller plus loin. On pourrait détailler, passer en détail tout ce qu'il faut faire. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire parce qu'on sait tous très bien ce qui fait problème, l'économie, l'éducation, le changement climatique, les relations internationales, mais on dira juste deux ou trois choses pour dire que il est impératif de souligner qu'il convient à enjeux nouveaux ou à défis nouveaux de penser autrement et que pour cela, il faut faire ressortir ce qui y a de mieux en l'homme ou en nous et en évitant ce qui y a, et pas toujours ce qui y a de pire. C'est un discours intéressant parce qu'il fait bien aussi, il insiste sur la dimension identitaire. Voilà, identitaire des Américains, en leur disant, en leur rappelant qu'ils sont des Thomas Edison. Alors Thomas Edison, c'est un peu la race des pionniers. Les pionniers, alors il faut bien rappeler cela, parce que quand on parle de pionniers, on voit un peu tout ce qui est celui qui ouvre la voie, et que cet esprit-là, l'Amérique est un peu en train de le perdre en essayant de se recroqueviller sur lui-même. C'est une critique indirecte à Donald Trump qui veut fermer les frontières et sans voir que, alors c'est Poutine qui l'a dit, un truc très intéressant, qu'il ne s'intéressait pas d'ailleurs aux frontières, mais aux êtres humains. Pour finir, parce que on ne peut pas résumer ce genre de discours, dont je dis, je parle plus de l'esprit de ce discours. Il dit que tout ce qui reste à faire, et Dieu seul sait qu'il y a des choses à faire, il est confiant parce qu'il croit au peuple américain. Je crois en vous, I believe in you. Donc je crois qu'on peut s'arrêter sur cette phrase qui est vraiment, enfin cet appel qui moi m'a parlé, hein, I believe in you, un homme politique qui dit ça, c'est formidable. Amis de Radio Silence, je vous dis à bientôt sur cette note de politique américaine.